Il est 8h.
Qu'est-ce qu'on fait pour que les commerces ne meurent pas? Là, 80% d'entre nous vont avoir la tête sous l'eau. Et là, on va se noyer.
Reconfinement général ce soir à minuit et désarroi, colère de ce commerçant bordelais, comme des millions de commerçants de France obligés de baisser le rideau au pire moment, juste avant la période cruciale des fêtes de fin d'année. Des angoisses d'autant que cet isolement d'automne pourrait bien déborder sur l'hiver. Il pourrait s'étendre jusqu'à fin janvier. Révélation à suivre de Louis Dragnel. Dans ce journal, nous allons décrypter ce confinement. Autour de la table avec nous, Emmanuel Dutheil, les conséquences économiques. Nous serons avec Victor Dolande pour une projection sur la situation épidémique des semaines à venir. Nous serons à Bruxelles. Les mesures françaises sont plus sévères qu'ailleurs en Europe, nous dira Isabelle Horry. Et puis le docteur Jimmy Mohamed nous rejoindra. Comment traverser au mieux ce nouveau confinement? Question notamment autour de l'activité physique.
Juste après ce journal, il n'y a pas d'économie prospère dans une situation sanitaire dégradée, a dit le président hier. Rien n'est plus important que la vie humaine. Mais il faut reconnaître que c'est un coup très dur pour les acteurs de l'économie, déjà fragilisés par la première vague. À 8h15, Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un reconfinement pour endiguer la deuxième vague épidémique, mais une autre vague arrive et elle s'annonce massive, celle des faillites. Des petits commerçants, bijouteries, parfumeries, fleuristes, magasins de vêtements de nos centres-villes, une nouvelle fois contraints de fermer.
On va se noyer, clame-t-il. Partons dès ce matin à Bordeaux, où l'exaspération est vive. Chaque année, l'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé entre le 1er novembre et le 15 décembre. Alors hier soir, quand ils ont entendu Emmanuel Macron, ces commerçants ont pris une véritable claque, Stéphane Place.
La fin de l'année, le pire moment pour baisser le rideau pour cette parfumerie bordelaise que dirige Sophie avec son associé.
C'est une catastrophe. Moi, mes collections de Noël, je les mets en boutique le 2 novembre. J'ai acheté tous mes stocks. Comment voulez-vous que je les vende après? Si déjà sur un mois, on fait zéro. Normalement, c'est échelonné.
Quelques rues plus loin, ce magasin de sport d'hiver, novembre-décembre, représente 40% de l'activité annuelle. Ici, travaillent une trentaine de salariés. Le premier confinement, c'est un prêt garanti par l'État et le chômage partiel qui ont permis à l'entreprise de le surmonter. Aujourd'hui, c'est en gardant un œil sur sa trésorerie déjà entamée que David Ducournau, le directeur de Sport Aventure, doit piloter l'enseigne.
Débloquer ce qui est débloquable en termes de trésorerie et de cash immédiat, limiter les paiements sur les fournisseurs qui sont non essentiels, c'est vraiment du pilotage de guerre, entre guillemets. Après, on est une entreprise à deux têtes, on a des magasins, on a du e-commerce, pour justement se permettre de pouvoir être beaucoup plus résilient qu'un commerce uniquement avec un pas de porte. Pour autant, oui, il y aura un impact très fort.
Rares sont les commerces du centre-ville à disposer d'un site marchands sur internet. Le report massif des consommateurs sur le commerce en ligne pour les fêtes, c'est même une crainte majeure des boutiques indépendantes. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Le désarroi de ces commerçants pour qui Emmanuel Macron a promis des aides, hein, mais l'avenir paraît sombre. On va d'abord parler de cela avec vous, Emmanuel Dutheil. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous le révélez ce matin. Le sort de ces commerçants a été âprement discuté hier lors des ultimes arbitrages, mais l'Élysée est restée inflexible, très peu de dérogations.
Oui, pourtant, ça n'a pas été faute d'essayer. Chaque ministère a tenté de défendre des dérogations pour ses propres secteurs d'activité. Selon nos informations, des réunions intenses et parfois rudes se sont tenues ces derniers jours sous la place Beauvau à Paris, au centre de crise. À Bercy aussi, les fédérations professionnelles sont venues plaider leur cause. Bruno Le Maire lui-même a jeté toutes ses forces dans la bataille hier lors du Conseil de défense. Le ministre de l'économie voulait obtenir que les commerces puissent ouvrir beaucoup plus largement. Si tu fermes les petits commerces, c'est la révolution. Les mecs sont à bout, résumé hier un des proches du ministre. Mais voilà, l'Élysée a donc digné.
Mais donc Emmanuel, concrètement, qu'est-ce qui sera ouvert?
Eh bien, on est exactement dans la même configuration qu'au printemps. Tous les commerces non essentiels sont fermés. C'est-à-dire que les restaurants, les bars, les coiffeurs, les libraires ou encore les fleuristes sont fermés. Toute petite dérogation pour les fleuristes qui vont fermer à la fin du week-end pour permettre aux Français quand même qui le souhaitent de fleurir les tombes. Mais le sapin de Noël, lui, il faudra plutôt l'acheter du coup en grande distribution. Tous ces petits commerces pourront quand même avoir des services de click and collect. Les marchés couverts et en plein air seront eux ouverts. Dans 15 jours, un point va être fait. Et si ça va mieux sur le front de l'épidémie, des dérogations pourraient alors intervenir.
Un point toutes les deux semaines. Les informations d'Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Deuxième interrogation ce matin. Combien de temps ce confinement va-t-il durer? Emmanuel Macron a annoncé 4 semaines, à minima, mais il a aussi prononcé cette petite phrase. Écoutez bien.
Nous verrons si nous pouvons cultiver l'espoir de célébrer en famille ce moment si précieux de Noël et des fêtes de fin d'année.
Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour.
Cette petite phrase, elle est lourde de sens. Vous nous le révélez ce matin, le confinement pourrait durer bien plus que 4 semaines.
Oui, il pourrait durer en réalité jusqu'à Noël et même au-delà, jusqu'à la fin du mois de janvier. 8 à 12 semaines de confinement au total. Donc, C'est en tout cas le calendrier qui est envisagé à l'Élysée et je peux vous dire que la préoccupation des prochains jours, ce sera de savoir comment sauver Noël. Des réunions sont déjà programmées à Matignon pour réfléchir à la possibilité de lever le confinement pendant 2-3 jours autour de Noël, pour permettre aux familles de se retrouver même brièvement.
Alors ça veut dire qu'Emmanuel Macron craint que les Français ne supportent pas un confinement trop long.
Oui, le chef de l'État le sait, il n'était pas possible d'annoncer dès hier 2 à 3 mois de confinement. Un de ses proches me l'a confié hier, le président est obsédé par la question de l'acceptation sociale de ces mesures. Il a vu les images de violence en Italie et il ne veut pas que ces scènes se reproduisent en France. C'est pour ça qu'il a parlé des 4 semaines à minima, c'est-à-dire 4 semaines reconductibles. Mais évidemment, l'exécutif espère que le confinement va avoir des effets rapides, ce qui éviterait de le prolonger. Mais à ce stade, ce serait une sorte de miracle de Noël.
Les révélations de Louis de Raguenel pour Europe 1. Reconfinement d'automne un peu moins sombre que celui du printemps adapté, selon le mot d'Emmanuel Macron. Plus de salariés au travail, via plus de télétravail et chômage partiel. Visite possible dans les EHPAD et des établissements scolaires ouverts, y compris les lycées. C'est une surprise.
Avec un protocole sanitaire réévalué, le Premier ministre Jean Castex doit apporter des précisions ce soir à 18h30.
Sur le front de l'épidémie, plus de 3000 patients en réanimation. On a dépassé la moitié des capacités hospitalières, 5800 lits que le gouvernement entend porter à 10 000.
Hier, le président de la République a expliqué que cette deuxième vague serait plus meurtrière que la première. Je me tourne vers vous, Victor Dolande, bonjour.
Bonjour.
Qu'a voulu dire Emmanuel Macron ? C'est vraiment plus grave qu'au printemps ?
Oui, prenons simplement un chiffre pour bien comprendre la différence entre les deux périodes. Au 17 mars, le jour du premier confinement, 2600 patients Covid étaient hospitalisés. Aujourd'hui, nous en sommes déjà à 20 200 hospitalisations, soit près de 8 fois plus. Et ces chiffres vont inéluctablement se traduire par une multiplication d'admissions en réanimation, comme l'explique l'épidémiologiste Catherine Hill.
Comme les admissions à l'hôpital augmentent furieusement dans les derniers jours, ça va se traduire par une augmentation furieuse des admissions en réanimation avec un décalage de 10 jours. Donc on sait déjà que dans 10 jours, la situation sera catastrophique en réanimation. Et comme on n'a pas décidé de confiner au maximum, le système va être beaucoup moins efficace.
Concrètement, il faudra plus de temps, aux alentours de 3 à 4 semaines avant de voir un infléchissement de la courbe. Des semaines pendant lesquelles les services de réanimation vont se remplir. Selon les dernières projections de l'Institut Pasteur, le 6 novembre prochain, c'est-à-dire dans 8 jours, on pourrait compter jusqu'à 5700 patients en réanimation dans toute la France, ce qui représente 98% de l'ensemble des lits disponibles dans le pays. Et si on regarde un peu plus loin ces projections, le 13 novembre, 8100 personnes pourraient être en réanimation, bien au-delà de nos capacités d'accueil.
Explication signée Victor Dolande. On va maintenant dézoomer sur la carte de l'Europe. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Le virus déferle sur toute l'Europe, hein, Emmanuel Macron l'a rappelé hier. Ça n'empêche, Isabelle, que les mesures françaises sont les plus rigoureuses.
Et oui, les plus rigoureuses à l'échelle d'un pays entier, à égalité avec l'Irlande qui a imposé le reconfinement il y a 8 jours. Les Irlandais doivent rester dans un rayon de 5 km autour de chez eux, mais là-bas aussi les écoles sont ouvertes. Ailleurs, on n'en est pas là, pas encore en tout cas, même dans les pays où la situation sanitaire est proche de celle de la France, voire pire. Exemple, la Suisse voisine, les taux de contamination sont plus élevés que dans l'Hexagone. Eh bien hier, le gouvernement a juste annoncé la fermeture des bars et restaurants à 23 heures et la réduction des réunions privées à 10 personnes. Autre voisin très très atteint, la Belgique. On peut toujours s'y déplacer librement jusqu'à 22 heures et tous les commerces restent ouverts. Emmanuel Macron a aussi évoqué des mesures plus dures en Espagne et aux Pays-Bas. Mais en deçà des Pyrénées, juste un couvre-feu en soirée et des restrictions de déplacement local. Enfin, aux Pays-Bas, bars et restaurants sont fermés, mais pas de confinement ni même de couvre-feu.
Et aujourd'hui, Emmanuel Macron va participer à un Conseil européen en visioconférence pour une coordination des pays de l'Union européenne sur la réponse sanitaire.
Et en France, débat et vote du Sénat et de l'Assemblée nationale. Confinement synonyme du retour des attestations dérogatoires. Nous vous le révélons ce matin, il y en aura 3. Une pour aller travailler, une pour aller chercher les enfants à l'école, mais aussi celle que nous connaissions au printemps pour aller chez le médecin, faire ses courses ou faire un peu de sport.
Alors justement, nous sommes avec Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Dans le journal de 7h avec vous, Jimmy, nous parlions de réapprendre à manger correctement. Autre question, docteur, sur les activités physiques, ce sera seul et près de chez soi. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez ?
Oui, alors c'est autorisé et moi je vous le recommande puisque souvenez-vous, pendant la première vague, on a vu des gens souffrir d'états de stress liés au confinement, des troubles du sommeil. On sait tous que l'activité physique va vous permettre de diminuer ce niveau de stress et peut-être d'éviter de consommer des anxiolytiques. Même chose en ce qui concerne votre endormissement, vous dormirez mieux et vous serez un peu détendu. Ça, c'est valable pour tout le monde, mais en particulier pour une catégorie de patients, notamment ceux qui ont des pathologies chroniques. Si jamais vous avez de l'hypertension, du diabète, des pathologies rhumatismales comme une polyarthrite, des problèmes de dos, eh bien je vous recommande encore plus l'activité physique puisqu'elle sera encore plus bénéfique pour vous. Vous améliorerez vos maladies et vous éviterez de les dégrader car on s'est rendu compte que les gens allaient moins bien pendant cette période de confinement. Donc oui, faites une activité physique, ça vous paraît tout bête, mais descendez les escaliers, faites le tour autour de chez vous du pâté de maison, même quelques pas tous les jours régulièrement, ce sera bon pour votre santé.
Il y a quelques minutes, le porte-parole du gouvernement vient d'annoncer que les parcs et jardins resteront ouverts. C'est une bonne nouvelle, Jimmy.
C'est une bonne nouvelle, c'est nécessaire, non seulement pour l'état physique, mais aussi psychologiquement. Nous avons besoin d'une petite soupape de sécurité, car là, on n'est plus dans une course, on est dans un marathon, et tous ensemble, nous devons y arriver.
Les conseils de Jimmy Mohamed, spécialiste santé d'Europe 1. Merci. À l'étranger, plus de 8 millions de cas recensés en Inde, pays le plus touché derrière les États-Unis.
Et justement, le coronavirus, toujours un enjeu crucial du duel Joe Biden-Donald Trump, scrutin présidentiel J-5.
Comme chaque jour dans le journal de 8h, on retrouve Théo Manval pour son carnet de campagne. Bonjour Théo.
Bonjour à tous.
Vous êtes en Floride et on s'intéresse avec vous Théo au vote de la communauté latino, première minorité aux États-Unis devant les Afro-Américains.
Et ils devraient plus voter cette année. Vous êtes allé à leur rencontre Théo à Orlando, population hétéroclite. Difficile de savoir à qui va profiter ce regain de mobilisation. En tout cas, il ne va pas forcément desservir Donald Trump.
Effectivement, même si beaucoup des Latinos restent quand même les premiers à subir le chômage depuis le début de la pandémie, mettre de la nourriture sur la table est devenu difficile, explique Annie Seris, jeune maman dominicaine, caddie presque vide en sortant du supermarché.
Je suis cuisinière et je n'arrive même plus à trouver un job dans un restaurant. On vit beaucoup du tourisme ici à Orlando avec l'aéroport international et Disneyland, mais là il n'y a plus rien dans les hôtels ni les restaurants avec la pandémie, donc on galère tous.
Les Latinos occupent beaucoup de ces boulots de petites mains. Et ici, perdre son emploi, c'est aussi perdre son assurance santé.
Aujourd'hui, par exemple, je ne pourrais pas aller voir un spécialiste. Il faudrait que je me trouve un emploi avec une assurance. C'est ce qui me fait pencher côté Biden.
Et le programme santé n'est pas le seul argument qui pousse les Latinos du côté démocrate. Devant le bureau de vote anticipé du quartier, Anthony, d'origine cubaine, garde surtout lui en mémoire la campagne Trump de 2016.
Ah, ça, j'ai pas oublié. Construire le mur, le faire payer soi-disant par les Mexicains. On a un président qui refoule les réfugiés fuyant les dictatures d'Amérique du Sud. Je ne peux pas cautionner ça.
Mais vous le disiez, la population hispanique est tout sauf un groupe homogène. Quelques rangs derrière lui dans la file d'attente, Lissandra, née à Porto Rico, votera, elle, pour Donald Trump.
Il croit en les mêmes choses que moi. Il lui faut 4 ans de plus pour en finir avec l'avortement, le mariage homosexuel. C'est une élection importante pour les chrétiens.
La composante religieuse qui parle à une partie de cet électorat, tout comme la menace du communisme que le président agite à chaque fois qu'il parle de son rival Joe Biden. C'est tout sauf anodin, explique Eduardo Gamarra, politologue à l'Université internationale de Floride.
Ça a un écho chez les Cubains américains. Pour eux, Trump tient tête au régime communiste dans les Amériques, que ce soit à Cuba, Maduro au Venezuela. Ils pensent que Trump peut les libérer. Ils le voient comme leur homme fort.
Un homme fort qui compte dans les derniers sondages toujours près d'un tiers de soutien auprès des Latinos. Il leur a même concocté, écoutez, un spot publicitaire dédié.
Pour Donald Trump. Théo Manval, tous les jours dans le journal de 8h, les carnets de la campagne présidentielle américaine. Tous les reportages de Théo Manval à retrouver sur Europe 1.fr.
Merci Jérôme Lacroix, il est 8h14.